Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les hasards de la tyrannie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP.
Commandant de bataillon, Votre Majesté, j'ai l'honneur de vous saluer au nom du 115e bataillon d'infanterie. Votre Majesté, Second Class Bernard.
Au XIXe siècle, règne le roi Hubert de Hungbourg sur la Transylvanie, petite royauté, fait de montagnes, lacs et forêts. À part la capitale, tout le pays est regroupé en petits villages. La population n'est pas très riche, ses ressources sont paysannes et touristiques. Le roi et sa petite cour vivent dans un château féodal au milieu d'une montagne rocheuse. À ses pieds, il y a la capitale. Le château est moyenâgeux, à de grandes pièces sombres, presque vides, l'on y sent l'humidité. Hubert de Hungbourg a 33 ans. Il est grand, fort, les cheveux longs, avec une abondante barbe brune, la peau très blanche. Il est habillé comme un cosaque russe. Il n'est pas marié, vit entouré de chiens de chasse, de sa cour et de sa garde.
commandant de bataillon. Votre Majesté, j'ai l'honneur de vous saluer au nom du 115e bataillon d'infanterie.
Hubert rentre au château épuisé et courbaturé après une journée de chasse à court. Il va directement à ses appartements particuliers, qui est gardé par une sentinelle habillée en cosaque. Un salon, une bibliothèque bureau, une chambre, cabinet de toilette. Il entre dans sa chambre. S'assoit sur une chaise. Et se fait enlever ses bottes. L'on frappe à la porte. Entrez. C'est un domestique habillé à la française. Monsieur le ministre de la Justice, Eric Kozanski, désire parler à votre Altesse. Faites-le entrer. Le domestique sort. Et revient avec le ministre de la Justice. C'est un homme grand, fort, avec une espèce chevelure noire. Il a 40 ans. Il est habillé d'une redingote noire et a à la main une serviette bordeaux. Il avance devant le roi. Le roi est toujours en chaussettes et assis. Le ministre fait la révérence. Le roi fait signe aux domestiques de quitter la pièce. Alors, quoi de neuf, mon cher Eric ?
Votre Altesse savait que je ne voulais pas le portefeuille de la justice. Je n'aime pas sévir.
Oui, je sais. Mais tu es l'une des personnes dont j'ai le plus confiance. Tu m'aimes et tu m'as plus d'une fois prouvé ta loyauté. Dis-moi ce qui te chagrine.
Voilà, Votre Altesse. Pendant que vous étiez parti 2 jours à la chasse, les étudiants ont fait du chahut dans les rues de la capitale. Il demandait la liberté de la presse.
Le roi hausse ses épaules. Quelle liberté de la presse ? Nous n'avons pas de presse. Les seules gazettes que nous avons sont faites à l'étranger. Et si je libérais la presse, les gazettes étrangères en profiteraient pour faire passer leur propagande et créeront des émeutes qui leur permettront d'envahir le pays, soi-disant pour rétablir l'ordre. Si notre petit pays avait les moyens d'une presse nationale, il n'y aurait pas de censure. Bon, allez, les étudiants ont manifesté. C'est fini maintenant.
Pas tout à fait, Votre Altesse. Certains étudiants sont allés trop loin. Ils ont cassé quelques vitrines de magasins et lancé des pierres aux policiers en criant « À bas le tyran !»
Ce n'est pas bien grave. Il faut que jeunesse se fasse.
Oui. Mais des étudiants ont été arrêtés et le chef de la police ne veut pas les libérer. Il souhaite un procès et à faire ressortir une très vieille loi interdisant sous peine de mort les manifestants.
Dites au chef de la police que je m'y oppose, qu'il libère de suite les étudiants.
C'est impossible. Il a prévenu les membres du Parlement. Ils doivent être jugés. Vous n'avez qu'une seule chose à faire. C'est attendre le procès et donner votre grâce.
C'est ce que je ferai. Le ministre de la police est un imbécile. Croyant me nuire, il va augmenter ma popularité. Est-ce tout, mon ami ?
Oui, sire.
Vous faites pas de soucis. En agissant comme ils le font, ils se rendent impopulaires. Ils ne font que nuire à eux-mêmes. Allons, au revoir. J'ai besoin de repos. Le ministre s'incline et sort. Le roi se lève, ouvre un coffre en bois qui se trouve au pied du lit. Il en sort une paire de chaussures, ferme le coffre elle aimait. L'on frappe à la porte. Entrez. Il s'approche du roi. Sire, le chevalier Frédéric Transy désire avoir un entretien. Faites-le entrer. Le valet s'incline et sort. Le roi reste debout au milieu de la pièce. La porte s'ouvre. C'est le valet et un jeune homme. Le valet ressort. Deux hommes s'approchent l'un de l'autre. Se congratule.
Comme je suis heureux de te revoir, Frédéric. Moi aussi, sire.
Frédéric est un grand jeune homme de 22 ans. Blond, la peau très blanche, les traits fins mais fermes. Il est habillé en cosaque. Le roi le tient par les épaules et le regarde bien dans les yeux.
Un mois sans te voir, mon petit. Oui, sire. Ta famille va bien?
À merveille, et le mariage de ma sœur était une réussite.
Je suis très heureux. Quelle nouvelle m'apportes-tu d'autre?
Une grande nouvelle, sire, et une grande joie. Et à part ma famille, vous serez le seul à la connaître.
Je t'écoute.
Voilà, sire. Je sais que vous m'aimez.
Je suis sûr que ça vous mettra en joie. Je vais me marier.
Le roi lâche les épaules de son ami et pâlit.
Je me marie? Avec qui?
La princesse Isabelle de Trouchecar.
Ah?
Le roi fait un pas en arrière. Pensif et se retourne. Puis se retourne vers son ami.
C'est vrai que tu te maries?
Frédéric sourit.
Oui, sire. Tu te maries vraiment?
Oui, sire.
Mais pourquoi?
Frédéric sourit.
Parce que je l'aime, sire.
Oui, bien sûr. Le roi met la main sur son front.
Ce n'est pas possible que tu te maries.
Il lui met les mains sur ses épaules et le regarde bien dans les yeux.
Oui, sire, c'est possible. Mais, et moi alors? Et nous? Tu ne peux pas? Ce n'est pas normal?
Frédéric le regarde bien avec un rire moqueur.
Je suis en âge. Et du moment que je l'aime, je dois me marier.
Mais... que vais-je faire sans toi?
Comme avant?
Le roi se retire. Ton visage se crispe.
Ne me dis pas cela. Et puis c'est pas possible.
Non.
Sire, j'aurais... Ne m'appelle pas sire.
Hubert, j'aurais cru que cette nouvelle allait vous faire plaisir. Je suis surpris.
Vous qui m'aimez tant. Justement, je ne supporte pas.
Le jeune homme fait un pas en arrière.
Qu'avez-vous ce soir, sire? Vous êtes impossible.
Je crois qu'il vaut mieux que l'on se voie un autre jour.
Oui, c'est cela. Un autre jour.
Frédéric salue et sort. Le soir commence à tomber et la pièce assombrit. Le roi n'appelle pas pour qu'on apporte les chandelles. Il reste debout au milieu de la pièce, pensif.
Moi qui me faisais une telle joie de le revoir, je ne m'attendais pas à cette nouvelle. Voilà bien la jeunesse. Il m'abandonne après tout ce que j'ai fait pour lui. Je ne veux pas qu'il se marie. Il n'a pas le droit de me faire ça.
Il marche dans la pièce. Il sent une angoisse le prendre.
Non, c'est pas possible. Je ne le veux pas. Je ne le veux pas. Non.
Si se marie, je le tue. Il s'est arrêté de marcher. Je deviens fou, moi le tuer. Je vais essayer de le dissuader de se marier. Oui, le mariage n'est pas encore fait. Mais si, il se fera. Je suis le roi et je ne peux rien. Pourquoi la vie s'acharne-t-elle à détruire tout ce qui est harmonie? Ce n'est pas juste. La vie est-ce une lutte constante pour garder le bonheur? Alors je lutterai de toutes mes forces. Se réveille de mauvaise humeur. Il a mal dormi. Après avoir pris son petit déjeuner, il se dirige aux appartements du chevalier Frédéric Transy. Frédéric est surpris que le roi désire être reçu par lui de bon matin. Il enfile sa robe de chambre et reçoit le roi dans son salon. Il voit que le roi a la mine défaite et semble nerveux. « Bonjour, sire. »« Bonjour, Frédéric. Je t'avais dit de ne pas m'appeler sire. »« Voilà, je suis venu te dire que c'est impossible que tu te maries. » « Mais pourquoi, sire ?»« Raison d'état. Non, c'est impossible, c'est tout. Annule ton mariage. »« Je ne le peux pas, sire. Ma fiancée est en route. Si je l'annulais, ce serait un affront terrible pour la principauté qu'elle représente. »« Tu fais presque un mariage éteint et tu ne m'en as pas parlé. Tu dois rompre. »« Pourquoi, sire ?»« Et puis je ne le puis pas. Je ne le veux pas. C'est ton dernier mot. » « Oui, sire. Bon, tu n'es qu'un ingrat. » Et le roi se dirige vers la porte, furieux. Avant de quitter la pièce, il se retourne. « As-tu oublié tout ce que nous avons fait ensemble ?» Frédéric accourt vers lui. « Mais non, sire. Vous m'êtes le plus cher. Rien n'a changé. » Alors pourquoi ce mariage? Pourquoi êtes-vous contre? Le roi le regarde bien dans les yeux. Il a les larmes aux yeux. Puis, il sort de la pièce. Une fois sorti de la pièce, il est pensif. Tourne la tête de droite à gauche. Je ne veux pas que ce mariage se fasse. Il cherche à m'endormir avec ses sentiments. Ce n'est qu'un ingrat. Comme tous les jeunes. Une fois sorti des appartements du chevalier, en colère et broyant du noir, il rencontre dans le couloir son ministre de la Justice.
Ah, justement, sire, je désirais vous voir.
Le roi s'arrête de marcher.
Les étudiants ont encore manifesté hier au soir.
Dites-leur que je ne peux rien faire. Seulement après le procès.
Mais sire.
Ah, oh, les jeunes, toujours les jeunes. Comme la fiancée de Frédéric arrive, Qu'il le veuille ou non, le roi est obligé de la recevoir avec un certain apparat, de garder pour lui ses réticences. Qu'une princesse de sang, il ne peut faire autrement. Fiancée arrive à la frontière en carrosse. Elle est accueillie à la frontière par le ministre des Affaires étrangères et une garde d'honneur. Fiancée est là qui la reçoit. Il descend de cheval. Il va vers le carrosse, ouvre la portière et en sort une charmante jeune fille de 20 ans, blonde, grande, mince, avec un charmant sourire. Elle est habillée d'un manteau de voyage bleu.
Bonjour Elisabeth. Bonjour Frédéric. Avez-vous fait bon voyage? Oui, je vous remercie. Permettez-moi de vous présenter le ministre des Affaires étrangères, le comte Laez. Enchantée. Elle présente sa gouvernante, une vieille fille sèche, anglaise.
Commandant de bataillon, heure de vous saluer au nom du 115e bataillon d'infanterie.
Après présentation de la garde et manger un peu en pique-niquant, ils repartent. À cheval, Frédéric escorte le carrosse de sa fiancée avec le ministre et sa petite troupe.
Thank you. Ici, Berlin, avant tout.
Berlin.
À trois pas encore, Paris. Puis Londres, puis Saint-Pétersbourg, après l'Italie. J'oublie l'Italie. Car après les Saint-Pétersbourg, ça change toutes les années. Plus loin, l'Amérique. C'est par là-bas. Les pays du protectorat.
Le roi est tremblant d'inquiétude en attendant la venue de la princesse. Je dois me dominer, ne rien laisser voir de ce que je ressens. Frédéric présente sa fiancée au roi dans les salons privés de sa majesté. Le roi est au milieu de la pièce, il est seul. Il sera présenté officiellement plus tard. La porte s'ouvre. Entre Frédéric et sa fiancée. Sire, permettez-moi de vous présenter ma fiancée, la princesse Elisabeth Tranchker. Elle se baisse. Enchanté, il la relève. Je suis heureuse de vous voir enfin, sire. Mon fiancé m'a tellement parlé de vous. Vous êtes la personne qu'il aime le plus. Le roi sourit. Il est vrai que Frédéric et moi avons passé ensemble de longues années. Pour moi, c'est comme un frère, plus qu'un ami. Vous êtes bien belle, mademoiselle. Et je comprends Frédéric. Je savais, sire, lorsque vous la verrez, vous seriez séduit. Car il faut vous dire, mon ami, que le roi était inquiet de mon choix. C'est normal, il a tellement d'amitié pour moi qu'il avait peur que je me trompe. Maintenant, je suis tout à fait rassuré, dit le roi. Les jours passent, on organise des bals pour les fiancés.
C'est à mon cou qu'il devrait être.
C'est vrai, Sophie. Vous paraissez toute nue sans ce collier.
Des cérémonies de toutes sortes. Et même une visite chez des religieuses. roi est de plus en plus morose. Mais que faire? Les étudiants sont toujours bruyants et demandent à ce que l'on lâche les prisonniers. Avant son mariage, Frédéric, pour faire plaisir au roi, lui propose qu'il passe une de ses dernières soirées de célibataire avec lui. Le roi accepte. Ils ne seront que tous les deux et pourront parler librement. Après avoir pris un bon repas, ils sont tous les deux dans la chambre royale, couchés à terre devant un bon feu de cheminée. Le roi se penche légèrement et voit sur le visage de Frédéric le reflet des flammes qui pétillent. Tu es bien décidé de te marier?
Oui, je l'aime.
Tu l'aimes? Mais qu'a-t-elle de plus que les autres, celle-là?
C'est elle? C'est tout?
Ah, tu vois, elle n'a rien. Moi, ce que j'ai connu avec toi, aucune femme ne pourra me le faire oublier. C'était trop fort. Je croyais que pour toi, c'était la même chose.
Frédéric se tourne vers le roi, qui a son visage penché vers le sien, tout près du sien.
Pour moi aussi, c'est très fort. Mais si tu m'aimes, il faut que tu comprennes et sois heureux que je suis amoureux d'une belle et charmante jeune fille. Mais pourquoi veux-tu que je sois heureux parce que tu aimes une autre personne?
Il se taise.
Tu l'aimes tant que cela?
Oui.
Et elle?
Elle aussi.
En es-tu si sûr? Elle se marie peut-être pour ton rang, ta fortune?
Non, elle-même.
Et si un jour, tu t'apercevais qu'elle ne t'aimait pas, que ferais-tu?
Je souffrirais beaucoup.
Et si elle te trompait?
À ces mots, fou de rage, Frédéric se soulève et se penche vers le roi.
Je la tuerai, tu m'entends? Et si tu veux que nous restions amis, ne me dis plus jamais cela.
Calme-toi, j'ai dit ça comme ça.
Le roi se lève. Va vers la table. Remplis deux verres de vin avec une carafe. Retourne vers Frédéric. Tiens, bois. Frédéric prend la coupe et boit. Le roi ressent une certaine excitation, fièvre. Il n'est plus lui-même. La haine est entrée dans son corps. Ensuite, ils se sont quittés, en s'embrassant, se complimentant et s'excusant. Mais tout semblait faux au roi. Il eut l'impression de jouer un personnage.
Thank you.
un soir, après un concert au château, avant de rentrer dans ses appartements, le roi rencontre Élisabeth. Il la salue. Bonjour madame, j'espère que vous vous plaisez ici.
Oui, beaucoup, sire. Vous êtes charmante. Frédéric doit faire des jaloux. Et le roi se retire.
En passant devant deux jeunes gens, il entend l'un qui dit
« Elle est pas mal, la petite Élisabeth. Je me la payerai bien.
Frédéric pouvait partir quelques jours. Je tenterai le coup. »
Les étudiants arrêtent leur manifestation. Ils attendent le jugement de leurs camarades et la promesse que leur a fait le roi, la grâce.
Une semaine plus tard, le roi convoque Frédéric.
J'aimerais que tu puisses partir dans mes provinces du Nord. Il y a des agitations étudiantines. Je veux savoir ce qui s'y passe. Je ne peux pas y aller moi-même, je reçois l'ambassadeur d'Autriche. J'ai confiance qu'en toi. Sois gentil. Accepte cette mission.
J'accepte, sire.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les hasards de la tyrannie, dont c'était la première partie. Je tiens à dire que cette émission était prévue qu'en une seule partie. Il m'aurait fallu plus d'une heure d'émission et pour des raisons d'horaire, j'ai été obligé de couper mon émission en deux, malheureusement. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.